chemin de mémoire. Une émission hebdomadaire de Qasmim Hend, réalisée par Zubir Ketani.
Ce matin, ils ont osé. Ils ont osé vous assassiner. C'était un matin clair, aussi doux que les autres. Vous aviez envie de vivre et de chanter. Vivre était votre droit. Vous l'avez refusé pour que par votre sang, d'autres soient libérés. Nous sommes tristes et meurtris à travers murs et barreaux qui veulent nous séparer. C'est à vous que nous demandons la force de supporter l'instant de cruauté ou le couperet, puis le coq a chanté. Que vive votre idéal et vos sangs entremêlés pour que demain, ils n'osent plus nous assassiner. Ce magnifique poème, ce texte, a été écrit le 11 février 1957, au lendemain de l'exécution des premiers condamnés à mort algériens luttant pour l'indépendance de leur pays. Son auteur est une grande dame que vous avez peut-être croisée un jour à Alger sans la reconnaître. Elle a aujourd'hui plus de 80 ans. Elle s'appelle Annie Steiner. Écoutez Annie Steiner parlait de sa personne relève de l'exploit. C'est que cette femme d'une modestie exceptionnelle qui confine à l'effacement aime parler beaucoup plus des autres que de sa propre personne. Il y a tellement de gens qui ont fait mille fois plus que moi et qui ont souffert le martyre que je trouve indécent qu'on parle de ma petite personne, avoue-t-elle d'entrée de jeu. La regrettée militante Zahia Tarlit témoigne pour Annie Steiner. L'apport d'Annie à la révolution algérienne a été discret mais efficace. C'est une authentique révolutionnaire. Je suis du côté des humbles. C'est important d'avoir cette position, affirme Annie, pour commencer la conversation et puis de bifurquer tout de suite sur un autre terrain, celui du football. Dans la grande équipe du foot du Brésil des années 60, raconte-t-elle, il y avait Pelé et Garrincha. Ma préférence va tout naturellement à ce dernier qui vient des miséreuses favelas. Ce joueur, diminué physiquement, est resté lui-même. Il n'a jamais renié ses origines. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Il a commencé dans la misère et a terminé dans le dénuement. Le roi Pelé, quant à lui, a bien su gérer sa carrière. Cheveux blancs coupés courts, silhouette avenante, Annie Steiner a l'air d'une jeune grand-mère à la fois active et sereine. Parler d'elle, militante infatigable de la liberté, elle a vu le jour le 7 février 1928 à Marengo, Hadjout aujourd'hui. Son père, Fiordio Marcel, né au début du siècle dernier à Tipaza, est issu d'une famille originaire de Florence, en Italie. Il travaillait dans les hôpitaux. Lors de l'épidémie de typhus en 1942, il fut dépêché à Sidi Blabès comme directeur d'hôpital pour y mettre un peu d'ordre. Qu'est-ce qui a donc poussé les Fiorio, famille prospère, à quitter le symbole de la Renaissance italienne, Florence, pour s'installer en Algérie? Nul ne le sait. Mon père est mort à 41 ans, emporté par une crise cardiaque. Quant à ma mère, elle était enseignante, institutrice comme sa sœur et leur mère. Ma grand-mère, Virginie Malavial Truel, était institutrice à Borély La Sapi, El Oumaria aujourd'hui, d'au-dessus de Médéa, où elle exerçait selon le système de la classe unique. J'ai rompu la tradition, affirme Annie Stenner. Mon grand-père, né à Tni Telhed en 1870, est enterré à Palestro. Annie dut bourlinguer très jeune au gré des affectations de son père. À Boufarik, elle y effectua l'école primaire et à Sidi Blabès, c'est l'EPS. De là, elle est allée à Blida, une ville qui a beaucoup compté pour elle. Elle y fait ses études secondaires au célèbre lycée Duverrier, Ibn Rushd aujourd'hui, un excellent établissement du reste qui a vu défiler des shuhada comme Ali Boumendjel, Abben Ramdan et des responsables comme Ben Youssef Ben Khadda, Mohamed Yazid, Sadiq Hajar.
ماشي واحد الليل ماشي وحدي وحالي مغبون حكموا علي انا مهموم هارب هذا مكتوب سمعوني انا الحراق متغرب بلدان الناس خلي حبابي والناس ولدي وزيد الجيران اللي مع نهار وانا حيران لك غض ولا دلال بحر وحدي في المدينه خايف انا من ذوق الناس قطعت البحر وزدت البلدان ناوي نخدم ونرجع فنان حكموا علي انا بقاره وقاع من اميره غبار رايح دير التويل هارب انا باغي نعيش في بلادي راني محقور وفي الغربه راني مقهور
Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. De la grande Babilón me dicen el clandestino. Yo soy el que da ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, argelino clandestino, marihuana ilegal.
واش علي له حكمك ايه يا اخو ما عندكش زهر ما طاتش فرنسا
ليل مع نهار وانا حيران لا دار لا تاوي المبان بلادي راني محقور وفي الغربة راني مقهور قولوا يا ناس اش ندير قولوا يا ناس اش المصير حكموا علي انا بقارة قاع من اميرة عقصار
con él. no llevar papel. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.
À 80 ans, Annie Steiner garde le même regard, les mêmes convictions, les mêmes rêves. Je suis fille unique. J'ai vécu dans un milieu aisé. Je ne manquais de rien. J'aurais pu être très gâté, mais mes parents m'ont transmis certaines valeurs. Mon père, libre penseur, m'a inculqué les valeurs du travail, de l'honnêteté, de la justice et de la rigueur. Ma mère, qui m'a élevé et ne s'est pas remarié, venait d'une région de France très catholique et m'a donné une éducation chrétienne. Mes parents, au demeurant modestes, étaient dignes et ne fréquentaient pas la haute société. Ils étaient sensibles aux nombreuses souffrances humaines. Rebelle, Annie Steiner voulait révolutionner le monde. Un monde bien triste, celui qu'elle a côtoyé dans les centres sociaux d'Alger, où elle exerçait et où le dénuement le disputait à la misère et l'exclusion. Avec son éducation et son esprit combatif, elle se montre chaleureuse et distante à la fois, gardant quelque chose d'inaccessible. Ce sont des choses qu'il faudrait écrire un jour, reconnaît-elle, prévenante. Lorsque la lutte de libération nationale éclate en 1954, Annie Steiner se sent mûre. Elle est licenciée en droit. Avec son mari, le Suisse Rudolf Steiner, architecte de son état, elle a été amenée à connaître des gens de ce milieu à Paris où le couple a séjourné. Son époux était lié aux architectes du bureau de Le Corbusier. Dans la capitale française, ils restèrent 2 ans. Retour à Alger fin 1953. Où elle retrouve ses amis Jean Sénac, Roland Simounier, architecte originaire de Guilloville à Nbenyen aujourd'hui, et enfin Jean de Maisonseul, responsable du service d'urbanisme de la ville d'Alger, arrêté et incarcéré à Barberousse en 1956. Annie Steiner témoigne de cet épisode. Jean de Maisonseul est resté très digne. Il a sauvé beaucoup de choses à Alger qu'on est en train de détruire. C'était un peintre et un sculpteur qui avait fait visiter la Casbah à Le Corbusier.
Comme l'eau se souvient de ceux qui s'y seraient plongés, moi je me rappelle encore, je n'ai pas renoncé. De l'autre côté du mur, je vois ces gens passer comme une caricature dans le jour effacé. On se retourne un matin, on se réveille ailleurs avec des ailes au bout des mains, ni moins bon ni meilleur. Cette main qui me tient, comme l'eau se souvient, nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour n'aime pas naître. J'attendais juste quelque chose, je suis passé par là, mais le bassin était vide et la grille était rose. Je me suis installé dans ce matin où il était une fois, avant que tout ne soit éteint, tu restais là. Et cette main qui me tient, comme l'eau se souvient, nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour ne pas naître. Comme l'eau se souvient d'un corps qui s'y serait plongé, moi je me rappelle encore, je n'ai pas renoncé. quelque chose en plus, à quelque chose en moins, comme l'eau qui se rappelle, comme l'eau qui se souvient. Nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour ne pas naître. Nous n'aurions pas dû nous connaître, comme le jour ne pas naître.
Bien avant le déclenchement de la guerre de libération nationale, Annie Steiner avait pris conscience de la situation désastreuse des indigènes. Elle avait choisi son camp. Elle était dans le réseau FLN clandestin dans lequel elle a été engagée en 1955 après avoir cherché un contact dès la fin de l'année 1954. Elle raconte cette période. J'ai pu faire beaucoup de choses, tout simplement parce qu'étant d'origine européenne, je n'éveillais pas les soupçons et je n'étais pas fiché par la police. Quel était le regard porté sur elle par ses amis pieds-noirs, elle qui avait pris le parti de lutter pour l'indépendance de l'Algérie? Annie Steiner répond. Personne ne savait ce que je faisais. Leur surprise a dû être grande lorsqu'ils l'ont appris dans le journal, en page 1 et en gros titre. Arrêtée en octobre 1956, Annie Steiner est condamnée à 5 ans de réclusion par le tribunal militaire d'Alger lors d'un procès qui a duré 3 jours et appelé à tort le procès des médecins. Pourquoi cette expression? Voulait-on associer intentionnellement le mot médecin à une des activités du groupe concernant un laboratoire d'explosifs? On ne le saura peut-être jamais. Après son arrestation, Annie Steiner a fait 6 prisons. Barberousse, Maison Carrée, Blida par mesure disciplinaire, puis transfert à la Petite Roquette à Paris, à la vieille prison de Rennes et enfin à la maison d'arrêt de Pau. Sa petite famille accuse le coup. Sa mère en souffre beaucoup, les enfants aussi. Après sa sortie de prison en 1961, elle ne pouvait revenir en Algérie. Elle se rend en Suisse où la garde de ses deux filles, Edith et Ida, lui est retirée. Le divorce est dès lors consommé. En 1962, Annie Steiner rentre à Alger avec pour seul bagage un petit sac. « Je n'avais pas le sou », avoue-t-elle. « J'étais seule. Ma mère et sa famille étaient parties en France. Il fallait repartir de zéro. Heureusement, j'étais recueillie par deux sœurs de prison, deux moujahidettes, Safia puis Meryem, dont la famille m'accueillir pendant plus de 2 mois en me traitant comme leur propre fille. C'est tout simplement inoubliable. Elle confie parfois sa tristesse. Annie Steiner a horreur de ceux qui assument mal leur petite dose de mégalomanie, se croyant dépositaire du destin supérieur. Elle en rit, un peu jaune. En 1962, avec la création du secrétariat général du gouvernement, dont le premier secrétaire était Mohamed Bjaoui, un excellent juriste du reste, elle y est engagée parce qu'elle avait tout simplement le profil. Elle y consacrera 30 ans de sa vie, une vie de fonctionnaire modèle, assurant avec d'autres cadres la tâche d'organiser la nouvelle administration de l'Algérie indépendante.
Je passe encore une nuit blanche, une traversée de la Manche. Je compte les moutons qui s'y baignent, me cognent au ding-dong de Big Ben. Je passe encore une nuit blanche, une heure sur le dos, deux sur la tranche. J'essaie un rêve, puis le rature passe par toutes les températures. Mes yeux ouverts, cartographie, grâce aux diodes de la chaîne IFI. La moindre trace sur le mur que laissent les défauts de peinture. Et j'ai déjà pu répertorier une libellule de Fox Terrier, un truc qui ressemble à la France. Il manque juste un bout de Provence. Et toi, tu dors, conquistador, dans ton Amérique, on s'endort si vite. J'aimerais te greffer les bras de Morphée pour m'y blottir et enfin dormir. Je passe encore une nuit blanche, et toi dans ta bulle tu scies des branches. Ce n'est plus une bande dessinée, mais c'est une forêt que t'as dessinée. J'ai tout fait pour percer ta bulle, une quinte de tout que je simule, mais pour t'empêcher de me fausser compagnie, je peux me brosser. Et demain tu me feras l'affront, la marque d'oreiller sur le front. Tu diras culot inouï, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. À l'heure de mettre pied à terre, j'aurai sous les yeux de cratère. Il faut croire que mon sommeil est enchui avec le soleil. Et toi, tu dors, conquistador, dans ton Amérique, on s'endort si vite. J'aimerais te greffer les bras de Morphée pour m'y blottir et enfin dormir. Mais toi, tu dors, conquistador, dans ton Amérique, on s'endort si vite. J'aimerais te greffer les bras de Morphée pour m'y blottir et enfin dormir.
Annie Steiner fait un aveu autour de cette période. C'était passionnant et très prenant, se souvient-elle. Aujourd'hui, Annie Steiner a la satisfaction d'avoir contribué à la formation de centaines de cadres de la fonction publique, avec cette particularité d'avoir été la première femme nommée directeur d'administration centrale par le défunt président Boumediene. Auparavant, en 1962, elle avait déjà été nommée chargée de mission au secrétariat général du gouvernement. Son discours est sincère quand elle se présente en déprimée du contemporain. Parfois même, elle donne l'impression de vouloir en découdre avec les tracas qui empoisonnent la vie de ses concitoyens. 50 ans après, à 80 ans, Annie Steiner est toujours là, femme de conviction, d'action et de réflexion, traquant les injustices. J'ai participé, dit-elle, à toutes les luttes depuis la grande manifestation du 8 mars 1965, organisée par les Moudjahidettes, qui a vu défiler des milliers de femmes dans les rues d'Alger. Jean Sénac, nous avions 20 ans et c'était une autre vision. C'était une grande ouverture sur le monde et sur l'Algérie. Avec Jean, on se voyait à la librairie Charlot, à la rue Charras. D'ailleurs, ce dernier m'a dédié en 1957 son petit livre « Le soleil sous les armes ». Il fallait avoir du courage pour le faire, en pleine bataille d'Alger, à des gens qui étaient en prison. Annie Steiner est également l'amie de la grande poétesse algérienne Anna Greki. Elle aussi a été emprisonnée à Barberousse. Elle est morte trop tôt. Je l'ai revue après l'indépendance. Quel beau poème dans le plus superbe d'entre tous, dans Algérie, capitale Alger. J'ai même demandé une réédition, mais je n'ai rien vu venir. Bouabdallah et son film Barberousse, mes sœurs, consacré au combat des femmes, constituent pour Annie Steiner le plus bel hymne consacré aux femmes algériennes. Quel est le sentiment d'Annie Steiner sur l'Algérie actuelle, elle qui a près d'un siècle d'existence sur cette terre? Je suis révolté comme en 1954. Comment en étant arrivé là, le système se perpétue sous toutes ses formes. Je fais ce que je peux, mais je reste révolté quand même.
J'avais trop envie d'être écoutée. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes. Doucement, goutte à goutte à déborder. Quand la coupe est pleine, c'est la goutte en trop qui entraîne les autres gouttes d'eau. Je ne suis qu'une goutte folle, dégoûtée, noyée dans un ras-le-bol. J'ai pleuré ma vie, inondé la plaine. J'ai défait mon lit, y en a qui s'agèrent. C'est l'histoire d'une goutte incitant d'autres gouttes, doucement coûte que coûte. J'ai quitté la route qu'on m'avait creusée. J'avais trop envie d'être écoutée.